Bienvenue à En toute bonne foi, chers auditeurs. En cette période de carême, nous avançons irrémédiablement vers Pâques. Nous allons découvrir si cette année encore, les demandes de baptême sont en hausse comme depuis 2023. Pardon. Voyons ensemble les chiffres. 2023, 5423 baptêmes. 2024, 7135. 2025, 17 800. Ce sont les 18-25 ans qui sont les plus nombreux à demander le baptême. La majorité sont des femmes. Mais notons par ailleurs que les baptêmes infantiles sont en baisse. Je citerai le pape Léon XIV lors de la messe de la fête du baptême du Seigneur cette année. Quand nous savons qu'un bien est essentiel, nous le recherchons immédiatement pour ce que nous aimons. Si la nourriture et les vêtements sont nécessaires pour vivre, la foi est plus que nécessaire, car avec Dieu, la vie trouve le salut, a-t-il expliqué. Alors, à bon entendu. Alors, nous recevons de nouveau cette semaine, car le sujet valait bien de partie, Guillaume-François Salin. Bonjour, Guillaume-François.
Bonjour.
Alors, nous vous accueillons pour votre livre « Pour toi qui demandes le baptême » aux éditions de l'Emmanuel. Nous parlons des catéchumènes, ceux auxquels vous vous adressez car vous avez bien connu cette période il y a quelques années. Je rappelle que vous êtes diplômé en psychologie et en théologie, adjoint en pastoral dans un collège et un lycée en temps partiel, formateur, psychopraticien en cabinet le reste du temps. Et alors là, vous nous partagez votre expérience d'ancien catéchumène et vous occupez vous-même de l'accompagnement des formateurs, des accompagnateurs en catéchumène. Pardon. Alors, j'ai beaucoup apprécié dans votre livre que vous rappeliez l'importance du temps. Vous qui êtes, on peut dire, thérapeute, quelle incidence du manque de temps chez les hommes et particulièrement chez les catéchumènes ?
Le temps est essentiel parce que dans une société actuellement où tout va vite, on a des voitures qui nous permettent d'aller rapidement d'un point A à un point B, on a nos écrans, les ordinateurs, les portables qui nous permettent d'accélérer. Dieu se vit dans le temps long et surtout dans l'instant présent, ce qui demande une certaine présence et donc la capacité de se poser. Souvent dans la Bible, ce qui revient souvent, c'est écoute, écoute. Mais pour écouter, il faut se poser. Et donc ça, c'est un peu un enjeu de voir ça avec les catéchumènes, de leur faire comprendre que dans leur foi, il va y avoir des actions à poser, des choses à faire, mais surtout à être, à se poser, à écouter. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Et dans la vie de tous les jours, moi y compris, on est sans cesse tiré à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle bien d'une grande aventure, mais une aventure spirituelle, une aventure intérieure. Je parle de l'image de pèlerin de l'existence. Mmh. Je reprends l'expression de Léon Bois, hein, qui parlait de pèlerin de l'absolu. Pèlerin de l'existence, pour pèleriner, pour cheminer, il faut prendre le temps dans la prière, dans les étapes que l'on va vivre, à être à l'écoute, à se poser. Donc voilà pourquoi la manière d'aborder le temps. D'ailleurs, le catéchuménat se vit dans la plupart des paroisses en 2 ans.
Oui.
Donc ça, c'est quand même un cheminement. Voilà, c'est quand même un certain temps. Et on leur dit bien que normalement, la continuité, donc ce qu'on pourrait appeler le néophyta, donc c'est-à-dire l'après-baptême, nécessite au moins 1 ou 2 ans en plus. Donc, la conversion se fait dans le temps long. Finalement, à l'image de la croissance de notre corps et de nous-mêmes, hein, on n'est pas devenu adulte en 2 ans, en 3 ans, mais ça a pris bien des années. Je pense que c'est une métaphore de notre vie spirituelle, hein, le temps que ça prend de grandir physiquement et physiologiquement, psychologiquement.
Avez-vous rencontré des catéchumènes qui vous disent qu'ils ont eu du mal à rencontrer Dieu ? Une fois qu'ils étaient quand même dans cette démarche, parce que il y a cette envie d'être baptisé, mais ça ne veut pas dire qu'on a encore rencontré Dieu.
Ah oui, ah non non, alors
c'est très distinct.
À minima, tout à fait. À minima, s'ils demandent le baptême, à minima, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé, une attirance. Une curiosité, des fois ça peut être vraiment très frêle, très fragile,
oui.
Mais il s'est passé quelque chose. Le fait de la question, vous la posez très bien en fait, hein, sur le fait de rencontrer Dieu durant le parcours, d'approfondir cette relation avec Dieu. En fait, la plupart sont très fragiles en fait. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, ainsi que d'autres qui viendront après. C'est en fait moi le but, c'est d'aider les catéchumènes à approfondir cette première chose, même si c'est tout petit, hein, même si c'est juste une curiosité. Parce qu'en fait, ils sont très fragiles. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais on parle souvent de 50% qui arrêtent après le baptême. Moi, je dirais aussi 50% jusqu'au baptême qui arrêtent, c'est-à-dire beaucoup qui ne vont pas jusqu'au bout. Et même, je pense que 50%, moi, je dirais un peu plus, honnêtement. Et j'ai demandé à plusieurs prêtres sur le terrain, ils étaient plutôt d'accord avec moi. En fait, pour tous ceux qu'on baptise, il y en a plein à côté qui ne continuent pas ou qui arrêtent avant le baptême. En fait, ils sont très fragiles à cause de tout ce qu'on a parlé la dernière fois, les fragilités, les difficultés dues au temps, les catholiques eux-mêmes et dans leur propre cœur, plus le combat spirituel.
Oui.
Mais du coup, ça demande à vraiment bien les accompagner. Et donc, la rencontre avec Dieu, pour beaucoup trop de raisons, est sabotée. Il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, beaucoup ont du mal, même jusqu'au baptême, se dire « mais... en fait, moi, j'ai pas de relation personnelle vraiment avec Dieu. » Il y en a pas mal hein, au moment du baptême. Hein, tout au plus, au moment du baptême, ils sentent qu'il s'est passé quelque chose, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir une relation avec une personne, vous voyez. Mmh. Donc, d'où le fait du néophyta après, donc ça veut dire l'après-baptême qui est essentiel. En fait, le but du baptême, c'est d'avoir une vie chrétienne. L'objectif, c'est pas le baptême. Le baptême, c'est une étape vers la vie chrétienne. Et donc, si on conçoit les choses comme ça, là, c'est différent. Et le problème, c'est que souvent, dans notre manière d'enseigner, ou même pour les catéchumènes eux-mêmes, le baptême, c'est la fin.
Oui, c'est ça.
Alors qu'en fait, c'est le début.
Et ben voilà, voilà, le baptême comme un commencement, vous précisez cela, m'a tout d'abord étonnée. Mais en fait, c'est une évidence parce qu'être baptisé, c'est devenir chrétien et non baptisé.
Le but, tout à fait, le but, c'est d'avoir une vie chrétienne. Et le baptême est un moyen vers cette vie chrétienne. Oui. C'est-à-dire que j'accueille la grâce du Seigneur, mais la grâce du Seigneur, elle a besoin de prendre chair dans notre vie. Dieu doit s'incarner dans notre vie. Et donc, pour s'incarner dans notre vie, il va falloir lui laisser de la place, laisser la grâce grandir, retirer ce qui lui fait obstacle. Et donc, il y a plusieurs profils différents. Hein. Il y a des profils zélés aussi. Hein. Il y en a qui, avant d'être baptisés et au moment du baptême, sont assez à fond.
Oui.
Il se trouve que moi, j'étais... alors c'est pas dans celui-là, mais dans un prochain, je parle aussi de des différents types de baptisés et du coup il y en a qui sont plutôt zélés, on va dire. Il y en a qui sont un peu plus froids, un peu plus timides, et il y en a qui sont un peu plus neutres. Et donc c'est important de continuer à bien les accompagner pour les aider à grandir dans leur foi. Et du coup c'est tout l'intérêt de tout ce que j'aborde dedans. C'est de leur donner un maximum de, si je puis me permettre l'expression, de tuyaux pour qu'ils aient tous les éléments pour au mieux cheminer au mieux. Après, j'ai pas la prétention de tout dire, de remplacer leur propre liberté ou quoi que ce soit, mais au moins, voilà, leur donner un maximum de tuyaux pour qu'ils puissent cheminer au mieux. Et après, c'est Dieu et leur liberté hein, qui fait tout. Pardon.
L'absence de Dieu ouvre à sa présence. C'est très beau ce que vous dites. Vous vous référez à Pascal. Pouvez-vous nous dire ce qu'il a vécu?
Vous pouvez répéter la citation, excusez-moi, j'ai mal entendu.
Pardon, l'absence de Dieu ouvre à sa présence. Donc vous vous référez à Pascal, pouvez-vous nous dire ce que Pascal a vécu?
En fait, alors Pascal n'est pas un catéchumène, hein, il a été baptisé petit, mais il a eu un cheminement tel quel, parce qu'à l'époque il y avait une philosophie qui niait Dieu, ou qui tournait à l'agnosticisme. Et Pascal a fait une vraie expérience mystique de la présence de Dieu, mais aussi de son absence, de sa discrétion. Dieu est un Dieu qui reprend ça de « vraiment tu es un Dieu caché » d'Isaïe. Et dans l'absence de Dieu, peut se développer le désir de Dieu. Je vous donne une image pour que ce soit compréhensible. J'aime quelqu'un, cette personne n'est pas là. Eh ben, les espaces d'absence peuvent être un espace d'approfondissement du désir. Si la personne est tout le temps collée à moi, il n'y a pas d'espace de respiration, de liberté et d'approfondissement du désir. Il faut un mélange de présence et d'absence. Et donc cette absence de Dieu est un espace pour approfondir la relation vers lui. mais ça peut être aussi la tentation de s'éloigner de lui. Et
oui.
C'est ce que vivent beaucoup de catéchumènes, parce qu'ils ne comprennent pas, et j'en parle du coup directement dans un des chapitres, où vraiment je parle, mais pourquoi Dieu est-il si discret ? Alors, je pensais même comme titre, pourquoi Dieu semble absent, vous voyez ? Mais en tout cas, c'est ce que j'aborde dans ce chapitre-là.
Oui.
C'est vraiment, mais pourquoi des fois, ou même pendant tout mon parcours, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là ? Pourquoi, s'il est si puissant, est-il si discret ? Parce que c'est la réalité, Dieu est discret. Comme dit le prophète, c'est avec le prophète Élie, hein, et il est dans la fine brise légère du vent, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans l'orage. C'est une image hein, pour dire que le vent est invisible, on en ressent à la limite un peu les effets, mais ce n'est pas quelque chose de palpable, de visible. Et Dieu a cette discrétion. Et c'est là où il faut aussi enseigner les catéchumènes de cette discrétion de Dieu. Des fois, il peut agir de manière très forte, hein, très visible, mais dans le mode ordinaire de la foi que tous les catholiques vivent, Dieu est discret.
Nous allons faire une courte pause, François-Guillaume, et reprendrons tout de suite après.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Du reste, c'est Guillaume François, je savais que j'allais me tromper, pardon. Alors, comment est-ce que lorsque vous étiez catéchumène, vous avez réagi face à la communion des saints, l'intercession des saints, le jeûne, la prière, les sacrifices ? C'est quand même tout un monde.
Oui, tout à fait. Alors, vous me posez une bonne question parce que ça fait longtemps que je ne me la suis pas posée. Pour le jeûne, je pense qu'aujourd'hui, avec des fois le développement personnel, où on se met des défis, etc., j'ai pas eu trop de difficultés. Mmh. Pour l'intercession des saints, je pense que ça a pris beaucoup de temps de vraiment comprendre la profondeur de ce que ça revêt. Mmh. Donc moi, au début, pour vous dire, tout ce qui est communion des saints, etc., j'étais plutôt focalisé sur Jésus et donc c'est venu bien après en fait. Hein.
Oui.
Même si je priais déjà en fait, hein, je priais déjà notamment des figures comme Padre Pio, mm-hmm. Saint François d'Assise. Donc je l'avais intuitivement intégré, mais je n'avais pas encore perçu ce que ça impliquait. Vous m'avez parlé du jeûne et après d'autres choses.
La prière, les sacrifices, parce que les sacrifices, c'est
oui,
pas à la mode.
Ah non, c'est pas du tout à la mode. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet à aborder avec les catéchumènes, que la foi, ce n'est pas que du plaisir.
Oui.
C'est la fragilité dont je parle, le consumérisme, hein, mm-hmm. et qui sous-entend que tant que quelque chose est plaisant et que je peux le consommer, ça va. Et dès que quelque chose me coûte, je vais avoir tendance à le mettre de côté.
Oui.
La prière, moi, personnellement, du fait de mon parcours, mais je ne parle que de moi, j'ai eu vraiment une conversion très forte.
Oui.
Donc, elle était très intense et j'avais envie de prier tout le temps, d'aller tout le temps à la messe. J'étais même un peu dans l'excès où je fuyais un peu le monde sans m'en rendre compte et à vouloir être tout le temps avec Jésus.
Oui.
Donc, mon exemple n'est peut-être pas le meilleur pour parler des catéchumènes en général. Moi, j'avais vraiment envie de prier tout le temps, d'être tout le temps avec Dieu. Je le vivais comme une respiration quoi, de ma vie. Hein. Pour les sacrifices...
Oui, qu'on appelle sacrifice parce qu'on n'ose plus trop utiliser le mot mortification
oui.
actuellement, alors
oui,
qu'une mortification dit bien
tout.
Ce que c'est. Hein.
Tout à fait. Et c'est d'où le fait que si on n'enseigne pas ces notions aux catéchumènes,
oui.
d'où le fait qu'il va y avoir une certaine fragilité aussi, hein, parce qu'on va donner l'image de la foi. C'est vrai en partie qu'elle apporte le bonheur, mais c'est un bonheur un peu déconnecté de ce que l'on vit. Hein. Beaucoup de choses qui nous apportent dans notre vie nous coûtent, et c'est normal. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui nous pèsent dans la vie, il faut les combattre, et il faut être capable de se priver pour pouvoir grandir en liberté et en responsabilité. C'était Bernanos qui associait beaucoup les deux. Et du coup... cette notion de mortification, elle n'est pas beaucoup mise en avant. Alors moi, dans mon parcours, comme j'aimais beaucoup Padre Pio, ça va, j'ai eu un bon maître qui m'a bien sensibilisé à la question. Mais encore une fois, je ne suis pas un bon exemple pour ça. Je pense que je ne suis pas sûr que je représente tous les catéchumènes pour ce point-là. Moi, j'étais assez sensible à la question de la mortification par la découverte de Padre Pio.
Oui.
Puis j'ai fait mon catéchuménage chez les Dominicains à Bordeaux, donc je trouve que les religieux incarnent bien cette notion de mortification, du moins là où j'étais. Donc c'est un enjeu en effet, hein, de bien faire comprendre ce que ça implique.
Oui. Alors j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes dire, alors on l'a légèrement abordé tout à l'heure, j'aimerais en reparler, qu'elles se sentaient seules après le baptême parce que plus de préparation,
Oui.
plus de rencontres.
Allez-y.
Alors pardon, hein, je vais faire un petit reproche à cette préparation et peut-être à toutes ces rencontres, enfin bon, qui sont très saines parce qu'elles sont porteuses et festives, mais elle n'aide pas trop le catéchumène à se prendre en main. En fait, on est dans une société qui est biberonnée à l'assistanat. Et est-ce que là, il n'y en a pas. Enfin, est-ce que là, ça n'existe pas aussi?
Alors,
Je suis sévère, peut-être, hein, pardon. Hein.
Ouais. Non, au contraire, hein, vous dites les mots et vous avez raison. Hein. Je réfléchis en même temps, c'est que d'où le fait que ressort de plus en plus cette histoire de néophyte. Mais on ne sait pas trop quelle forme lui donner.
Oui.
Moi, l'intuition qui m'est venue, c'est que j'ai vécu à titre personnel, c'est que dans les premiers temps de l'Église, il y avait ce qu'on appelait un ancien garant de la foi,
Oui.
du nouveau converti, du cheminant vers le baptême. Et cette personne, elle avait comme responsabilité d'inclure le catéchumène dans la communauté. Donc, c'était quelqu'un de désigné dans la communauté qui l'accompagnait à titre individuel, donc pas que collectif, individuel, et qui avait pour rôle de l'intégrer dans la communauté pendant son catéchuménat et après.
Oui.
Et je trouve que ça, c'est une bonne manière d'aider les catéchumènes à justement, au moment de leur baptême, après leur baptême, quand le parcours finit,
oui.
de ne pas se retrouver seul, d'avoir un repère, quelqu'un qui va être présent pour vérifier, enfin, vérifier le mot n'est pas très joli, mais pour aider plutôt à ce que le catéchumène s'intègre. Et enfin, il faut vraiment qu'on réfléchisse à comment, dès le catéchuménat, on pense à l'après-baptême. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Souvent, on vend le catéchuménat comme un parcours jusqu'au baptême. Il faudrait le présenter comme un parcours de vie chrétienne, dont une des étapes est le baptême, et il y aurait une deuxième étape. Nous, par exemple, dans notre paroisse, il y avait le dimanche in albis, hein, qui est une très vieille coutume. Hein.
Oui.
C'était le fait de revenir un dimanche après Pâques, en habit blanc pour déposer l'habit blanc du baptême, donc l'aube, pour signifier que voilà, ils sont désormais néophytes. Et donc pour acter cette période-là. Donc il y a encore beaucoup de travail hein, là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et en effet, hein, s'il n'y a que le groupe du catéchuménat, la plupart arrêteront après, malheureusement.
Ça veut dire qu'ils restent encore fragiles après.
Ah oui. Je pense que j'espère l'avoir fait ressortir dans le livre, parce que là je m'adresse directement aux catéchumènes, leur faire comprendre qu'ils sont fragiles dans la foi et qu'ils le seront toujours à partir du baptême et qu'il faut qu'ils soient vigilants de penser à l'après-baptême, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Bien sûr, j'espère que leurs paroisses leur proposeront un maximum de choses, mais au cas où ce n'est pas le cas, qu'ils se préparent à cet après. Ils sont très fragiles, surtout que l'après-baptême, il y a le vide de plus de rencontres. Parce que, comme vous dites, le groupe
se disloque.
Et tout à fait. Et puis, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où ils ne sont pas seuls. Et puis là, d'un coup, ils sont jetés dans le grand bain. Et puis, des fois, il n'y a pas de parcours après. Enfin, même la plupart du temps. Donc, ils sont vite isolés. Et l'après-baptême, il peut y avoir une période de désert. Nous, on essaye, au niveau de notre catéchuménat à Talence... Voilà, tout à fait. Leur dire que, en fait, ils vont passer par là un moment, par le désert, que ça fait partie de la vie spirituelle. Et leur dire, c'est une chose, mais il faut les aider à le traverser. Et là, s'ils sont isolés, ils sont très fragiles.
Alors, vous consacrez un chapitre sur votre vie, ça m'a beaucoup touchée, avant votre baptême, afin que les catéchumènes qui liront ce livre, ils voient tout l'amour de Dieu déjà présent à leur côté avant. Cette demande. Vous le faites en 5 points. J'aimerais beaucoup que vous partagiez cela avec nos auditeurs, s'il vous plaît.
Avec joie. je dis avec joie parce que, en fait, d'où le fait que je parle de pèlerin de l'existence, c'est que Dieu n'a pas commencé à nous parler, nous, catéchumènes, à partir de notre catéchumène, mais depuis, que notre naissance. Vous savez la fameuse phrase de Jérémie, « Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. » Je le cite dans le livre. C'est de leur faire comprendre que toute l'existence, toute la vie est marquée de la présence de Dieu, que Dieu nous parle, mais qu'on ne l'entend pas forcément, ou qu'on n'a pas forcément repéré par le passé que c'était lui. Moi, je donne cette image d'un manga qui m'a marqué, et que, avec le recul, je suis convaincu que Dieu a commencé à me parler par là.
Oui.
Et en relisant ma vie sans cesse, je vois tous les fils, en fait, qui me mènent vers cette demande de baptême. Et en fait, il y en a eu plein qui étaient extra-ecclésia, quoi, qui étaient en dehors. Oui.
Ah, ça avait coupé. Alors, oui.
Alors,
en dehors de...
En dehors de l'Église, tout à fait. Et en fait, je me suis rendu compte, du coup, après, que beaucoup de choses vécues à l'extérieur de la foi qui n'ont rien à voir de prime abord. Donc, en fait, Dieu commençait déjà à me parler là. Et ouais. Faire comprendre ça aux catéchumènes, c'est leur faire comprendre que Dieu, c'est pas quelque chose qui se rajoute à leur vie. C'est le cœur battant de leur existence. Parce qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il faut leur faire comprendre ça très concrètement, à travers toutes les musiques, les séries qu'ils ont aimées, vraiment profondément. Vraiment profondément. Même si dans cette série, dans cette musique, tout n'était pas lié et tout n'était pas forcément raccord avec la foi chrétienne. Mais Dieu est au-dessus de tout ça. Il peut passer à travers tout ça pour commencer à nous parler. Bien sûr, ce sont des moyens tiers, ce sont parfois des choses imparfaites. Mais Dieu nous prend là où on est. Et des fois, même nous, en tant que catholiques, ça peut nous questionner aussi de trop circonscrire Dieu à la paroisse, en quelque sorte.
Oui.
De trop circonscrire Dieu à la prière. Oui, la prière est le lieu de rencontre par excellence. Thomas d'Aquin disait que la prière, c'est l'âme qui s'élève vers Dieu. Tout ça, c'est totalement vrai. Mais Dieu ne se réduit pas à la prière, au sacrement. Il agit dans tous les parts de notre vie. Et donc, faire comprendre ça aux catéchumènes, c'est développer en eux leur regard et leur vie mystique. D'avoir un regard plus profond sur leur existence. Et c'est pour ça que je parle de pèlerin de l'existence. Et je pense que s'ils ne comprennent pas ça, la foi va rester quelque chose qui va se rajouter au reste et va rester en surface. Et risque de ne pas être approfondie, voire mise de côté, voire malheureusement abandonnée à un moment ou l'autre.
Relire sa vie sous le regard de Dieu en y cherchant les traces de son amour.
Exactement.
Alors, il y a trois expressions de la prière, vocale, méditative et l'oraison, c'est ça?
Alors, c'est pas moi qui ai inventé, c'est
oui.
le catéchisme.
Bien sûr.
Mais oui, oui.
Est-ce que vous sentez quand même une attirance particulière pour une de ces trois expressions chez les catéchumènes, ce qui nous permettrait, lorsque nous rencontrons des personnes qui se posent des questions sur leur foi, d'entrer par ce chemin?
Moi, je dirais que, en fait, il y a plusieurs profils et que du coup, il faut leur présenter les trois. C'est-à-dire les différentes formes de prière, et que pour que chacun puisse voir là où sa sensibilité se met. J'ai un ami qui se tourne vers Dieu, et lui, au début, la première chose qu'il lui a parlé, c'était l'adoration, parce que le silence, parce que face à Dieu. Là où d'autres catéchumènes, l'adoration au début, ça va être hyper austère, quoi. Ça va être vraiment... Là, dernièrement, j'ai amené des jeunes en week-end, ils étaient tous émus de l'adoration, donc là, je me dis, incroyable. Dedans, il y avait des catéchumènes qui sont au lycée, et le lycée, ça paraît jeune, hein, ils ont été touchés par l'adoration. Et d'autres, l'adoration, ça va être vraiment, ça va être aride, austère. Donc moi, je crois qu'il faut présenter un maximum d'entrée de la vie chrétienne. Même je conseille, on le fait nous au niveau de notre paroisse, très vite, dès que possible, faire rencontrer des religieux, des moines, voilà, montrer un maximum de choses pour montrer tout l'éventail qu'on a en fait, hein, et que le catéchumène puisse trouver son mode de prière privilégié, même si le cœur, il faut vraiment que ce soit la messe, vraiment la
Bien
messe
sûr.
Qui rassemble
oui.
toutes ces prières.
Alors, il y a encore tant de choses à découvrir et je vous invite, chers auditeurs, à lire le livre de Guillaume-François Salin, « Pour toi qui demande le baptême » aux éditions de l'Emmanuel. J'ai vu que vous alliez être prochainement publié au livre de poche, bravo. et que vous sortez pour toi qui viens d'être baptisé. Donc, longue vie à vos ouvrages. J'aimerais bien que voilà, nous puissions vous accueillir une troisième fois à la sortie de ce livre. Donc, on en reparlera. Plongez dedans, donc, chers auditeurs, comme je le disais en préambule des émissions, il est certes écrit pour les catéchumènes, mais aussi pour nous qui rencontrons des personnes, qui se posent des questions sur la foi, qui n'osent pas franchir le pas du baptême ou qui nous prennent un petit peu pour désilluminer, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis même, ça nous apporte énormément parce que ça nous permet d'avoir un regard peut-être un peu plus honnête sur nous-mêmes et notre manière de paraître vis-à-vis de ceux qui commencent à avoir cet éveil à la foi. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Revenez nous voir, vous serez le bienvenu. Et chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec joie.